L'histoire des Okas, en particulier, on est arrêté au moment où les 5 missionnaires avaient été massacrés. Et après quelques années, d'abord la sœur de Ned Cent, Rachel, après avoir cherché la face de Dieu, prié, s'est dit que c'était pas possible que son frère et que ses 4 camarades soient morts pour rien. Et que finalement, Dieu avait un plan pour ces gens et que ce qui était un échec apparent, finalement, n'était qu'une partie du plan de Dieu. Et après avoir vraiment prié, elle a senti le besoin de elle-même l'appel de Dieu, de se consacrer pour poursuivre l'œuvre de son frère, bien entendu, à son tour, au risque de sa vie. Entre-temps, un nouveau pilote avait été engagé pour remplacer Ned Cent. Et Rachel s'est fait véhiculer par lui, à la fameuse ferme qui était juste à la limite du territoire Aouka. Et là, elle a repris contact avec la femme Aouka qui avait fui le territoire des Aouka déjà depuis plusieurs années, qu'on appelait Dayuna, c'était pas son vrai nom, enfin c'était ça. Ça faisait 9 ans que cette femme avait fui le village Aouka. Et là, Rachel a demandé à cette femme, Dayuna, de lui apprendre la langue Aouka. Auparavant, Rachel avait été missionnaire au Pérou. Et donc, c'est en 1955 qu'elle est venue s'établir dans cette propriété qui appartenait à ce riche homme d'affaires chrétien qui s'appelait Carlos Sevilla et qui avait mis cette propriété à disposition des missionnaires. Elle a appris toute l'histoire de cette Dayuna qui, à l'âge de 15 ans, avait fui le village Aouka par crainte d'une vengeance. Et donc, après être resté en compagnie de cette femme pendant 2 ans, de 1955 à 1957, en 1957, Rachel a décidé de rejoindre les Aouka, de tenter la grande aventure et d'aller directement dans le village où son frère avait été tué quelques années plus tôt. Elle a essayé de convaincre Dayuna de l'accompagner, mais Dayuna ne voulait absolument rien entendre. Elle disait que c'était du suicide, elle a eu une mort certaine. Et il a fallu longtemps pour que Rachel la convainque qu'elle avait des responsabilités vis-à-vis de son propre peuple, elle qui avait connu le Seigneur, qui s'était convertie, et Dayuna était une chrétienne. Et c'est alors qu'Elisabeth Elliott, qui était la veuve d'un des 5 pilotes qui avait été massacré, a entendu parler du projet de retourner chez les Aouka. Et elle aussi, de son côté, a entrepris d'étudier la langue Aouka. Et alors, sur ces entrefaites est arrivé un incident qui pourrait paraître être le fruit du hasard, mais dans lequel les deux femmes ont vu la main de Dieu. C'est que 2 des tantes de Dayuna ont fui à leur tour le village Aouka et se sont réfugiés justement chez Carlos Sevilla. Ces deux femmes ont entendu parler de l'Évangile et elles aussi se sont converties au Seigneur. Et c'est ainsi qu'en février 1958, les 3 femmes Aouka, Dayuna et ses 2 tantes, Elisabeth Elliott et Rachel, ont finalement décidé de se rendre chez les Aouka. Notamment, ce qui a décidé Dayuna, c'est que ses 2 tantes lui ont appris que sa mère vivait encore. Et finalement, Dayuna a eu un grand désir de revoir sa mère. Et là, elle a viré complètement. Et elle s'est déclarée prête, en septembre 58, de se rendre à nouveau chez les Aouka. Et c'est ainsi que les 5 femmes se sont mises en route à pied pour se rendre dans le village des Aouka. Et alors finalement, ce qui a été extraordinaire, c'est que autant, en quelque sorte, les hommes, les 5 hommes, avaient effrayé les Aouka, qui avaient vu en eux des ennemis potentiels, des gens qui étaient susceptibles de leur faire du mal, ils avaient paniqué. Et puis finalement, ils avaient supprimé, croyant avoir fait un danger. Finalement, des femmes ne représentaient pas une menace pour eux. ça a été le grand, comment dirais-je, si j'ose dire, ça a été la grande œuvre du Saint-Esprit, n'est-ce pas, d'envoyer des femmes qui, parce qu'elles étaient des femmes, parce qu'elles étaient a priori inoffensives finalement, ne représentaient pas pour les avocats un danger. Bon, le fait qu'elles étaient aussi accompagnées de femmes avocats, évidemment, a contribué aussi à faire que elles ont été bien reçues, ce qui était évidemment pour elles quelque chose de très important. On leur a donné une case, et bien entendu, Elisabeth et Rachel, qui avaient une formation paramédicale, se sont mises à soigner les populations, les femmes, les enfants, etc. Et petit à petit, donc, elles ont commencé à parler du Seigneur aux femmes d'abord et aux enfants. Et petit à petit, l'œuvre de la grâce de Dieu s'est faite. Et puis après, donc, c'est le chef lui-même, le chef qui s'est converti. Et là, donc, on peut dire que le réveil s'est répandu chez les avocats comme une traînée de poudre. Là, Rachel et Elisabeth se sont rendus compte que ces femmes, et ces hommes finalement, étaient prêts à écouter vraiment l'Évangile, à se tourner vers le Seigneur. Alors donc, elles ont demandé si, au chef, s'il était d'accord à ce que ben maintenant on fasse venir des missionnaires, quoi, d'autres, enfin des hommes. Alors, le chef a dit, bien finalement, nous ne savons pas pourquoi nous avons tué vos maris. Et c'est sûr que là, pour eux, ça a été le grand choc de voir que ces femmes dont ils avaient tué les maris et le frère, au lieu de leur en vouloir, au lieu de chercher la vengeance, comme c'était la règle, la coutume dans leur massacre mutuel, eh bien, leur avaient pardonné. Et donc, elles vivaient véritablement l'amour de Dieu et le pardon. C'était quelque chose qui les a profondément touchés, qui les a profondément bouleversés. Et le chef, donc, est venu demander pardon à ces femmes d'avoir tué leur mari et leur frère. Et puis, disons que finalement, il a expliqué qu'ils avaient paniqué, etc. Quoi. Évidemment, les femmes ont pardonné, tout ça. Bon. Et finalement, donc, des missionnaires américains, donc de la mission qui était là-bas, donc chez Carlos Sevilla, sont venus. Et alors, non seulement il y a eu véritablement un réveil, mais des hommes ont voulu se lever pour le service de Dieu. Ils sont allés ces hommes ont été envoyés dans une école biblique où ils ont appris d'abord à lire et à écrire parce qu'ils étaient totalement illettrés. Et ensuite, ils sont revenus évangéliser leur propre peuple et les tribus voisines. Et en 1966, donc 10 ans après finalement, avait lieu à Berlin un congrès mondial sur l'évangélisation. Et là, le chef, quelques évangélistes AOKA, Rachel et Elisabeth et les missionnaires qui étaient venus les seconder étaient présents. Et là, devant les représentants du monde évangélique du monde entier, le chef a béni Dieu, il a dit, eh bien, je remercie Dieu de ce que ces gens ont sacrifié leur vie pour nous apporter l'Évangile. Et voyez-vous, leur sacrifice n'a pas été vain. Et voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Nous étions des tueurs, nous étions des gens violents. Maintenant, l'amour de Dieu a touché véritablement notre cœur et nous sommes véritablement des êtres nouveaux. Et il a rendu hommage notamment au courage de ces deux femmes qui ont osé braver les dangers pour venir justement leur annoncer l'Évangile. C'est dans les mêmes années qu'ont été évangélisées aussi en Bolivie. Alors cette fois-ci, des tribus indiennes, les pays prennent, qui étaient donc des gens extrêmement dangereux aussi, violents, et qui aussi ont pu ainsi entendre parler de l'Évangile. Et puis aussi, donc, le XXe siècle a été le temps où les missionnaires ont commencé à évangéliser les Indiens de l'Amazonie. Les Indiens de l'Amazonie étaient aussi des Indiens, évidemment, qui étaient dans des conditions extrêmement primitives. Bon, ils avaient eu quelques contacts avec les Blancs, souvent des contacts de type commercial, mais finalement, peu avaient pensé à leur apporter l'Évangile. Et puis, ces Indiens se sont trouvés confrontés alors avec des situations extrêmement difficiles, dans ce sens que On s'est rendu compte que l'Amazonie était une région extrêmement riche, d'abord au point de vue bois, c'est sûr. Et puis ensuite, aussi, le sous-sol de l'Amazonie avait des richesses que, évidemment, les grandes compagnies capitalistes occidentales ont cherché à exploiter. Et alors, un terrible drame a commencé, qui dure encore d'ailleurs, à savoir que les Blancs se sont mis à exterminer les Indiens de l'Amazonie comme des bêtes sauvages, quoi, comme du gibier, quand il est gêné. Quoi. Et là, on sépare dizaines de milliers que les Indiens d'Amazonie ont été exterminés pendant le XXe siècle. Ça, c'est quelque chose d'abominable. On se rend compte que là, au moment où on fait des grandes marches de repentance pour le massacre des Indiens au XVIe siècle, quand les Espagnols sont arrivés en Amérique du Sud, eh bien finalement, rien n'a changé. D'ailleurs, c'est la même chose avec l'antisémitisme. Quand les Indiens gênent, les peuples primitifs, ben, on les extermine de la même manière. Et donc là, soudain, les chrétiens se sont rendus compte que ce génocide était en cours. Et alors là, ils sont intervenus. Ils sont intervenus et alors de nombreux missionnaires sont allés en Amazonie, d'abord pour évangéliser les Indiens, bien sûr, et puis deuxièmement pour essayer de faire arrêter aussi, ou en tout cas ralentir, les massacres. Bon, c'est quelque chose qui est en cours actuellement. Ce travail et d'évangélisation et de sauvetage, finalement, des Indiens, eh bien, se poursuit aussi, mené par des chrétiens. Vous savez, c'est aussi un petit peu toute la situation extrêmement complexe de l'Amérique du Sud, avec les cartels des drogues, les gangs, les mafias qui s'agitent là-bas, n'est-ce pas, et qui s'infiltrent aussi dans cette région qui était encore vierge justement de toute influence blanche. Et sans vouloir tomber dans le mythe du bon sauvage, il faut reconnaître que, bon, peut-être que quand même la situation de ces gens-là à cette période était meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui, n'est-ce pas. 1956 aussi a été l'année où l'on a traduit la Bible en Navajo. Donc pour les Indiens aussi qui parlaient cette langue, tant d'ailleurs en Amérique du Sud qu'en Amérique du Nord. L'époque aussi où on a évangélisé les Indiens Esquimaux, alors du Grand Nord, c'est-à-dire du Canada, du Nord du Canada et de l'Alaska. Et tous ces efforts qui ont commencé dans les années 50 se poursuivent encore. Il y a de très nombreux missionnaires maintenant qui travaillent parmi ces populations qui ne sont pas, disons, absolument primitives, dans ce sens qu'elles ont eu des contacts avec les Blancs, mais quand même qui sont encore marginales par rapport à la civilisation telle que nous la concevons, en tout cas. Autre région du monde aussi qui a été évangélisée pendant la deuxième partie du XXe siècle, c'est la grande île de Bornéo, qui se trouve donc au large de l'Australie et donc de l'insule Inde, où il y avait aussi, en 1952, donc, on a commencé à évangéliser cette région, de nombreuses peuplades, qui vivaient aussi d'une manière assez primitive. Dans toutes ces régions-là aussi, la Deuxième Guerre mondiale, qui avait mis en contact ces populations qui étaient encore vraiment, alors là, en marge de la civilisation, mais la Deuxième Guerre mondiale, qui a vu des combats extrêmement importants dans ces régions-là, ont fait que beaucoup d'Américains qui avaient combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale dans toutes ces régions du Pacifique central, disons, ont pris conscience aussi qu'il y avait là un travail très important à faire au point de vue évangélisation. Et beaucoup de ces soldats démobilisés, qui étaient soit convertis pendant leur service militaire, soit qui se sont convertis après, ont eu à cœur d'évangéliser ces populations-là. Et bon, ça a commencé par les aborigènes aussi d'Australie, qui aussi donc ont été l'objet d'un effort d'évangélisation extrêmement important, et en même temps aussi on a essayé de les sauver aussi d'une sorte de génocide qui n'était pas sans ressembler à celui des populations d'Amazonie dont nous avons parlé. Même chose en ce qui concerne les Philippines. Les Philippines qui avaient été aussi un endroit où les combats avaient fait rage pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et à la guerre terminée, donc, outre des populations qui étaient quand même très occidentalisées, dans les grandes villes comme Manille ou autres, mais il y avait à peu près 250 tribus et encore aujourd'hui, n'est-ce pas, avec 250 idiomes différents, n'est-ce pas, qui vivaient en marge de la civilisation, et que donc les missionnaires américains, après la victoire donc alliée de 1945, se sont efforcés justement d'évangéliser à partir des années 50 en particulier. Une des bases d'évangélisation de toute cette région-là a été dans les années 50 l'île de, qu'on appelait alors Formose, qui s'appelle aujourd'hui Taïwan, qui était la Chine nationaliste, la Chine où c'était la région où l'ancien leader chinois détrôné par Mao Tse-tung, Chiang Kai-shek, s'était réfugié donc en 1950 après la chute de la Chine continentale, pourrait-on dire, n'est-ce pas? Cette grande île est toujours revendiquée d'ailleurs par la Chine communiste, et c'est une porte de discorde entre les États-Unis et la Chine. Et pendant toute la guerre froide, évidemment, Formose, comme on l'appelait à cette époque-là, a été considéré comme un bastion avancé de la civilisation, enfin de l'Occident. Et donc aussi pour les missionnaires américains, c'était une base d'évangélisation de toute la région du sud-est asiatique. À partir de là, a été évangélisée, par exemple, la Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, où avaient lieu aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale des combats importants, les Nouvelles-Hébrides, la Malaisie et aussi l'Indonésie. Dans ces années-là aussi, les missionnaires américains ont entrepris, à partir de Formose aussi, d'évangéliser la péninsule indochinoise. La péninsule indochinoise, qui était avant la deuxième guerre mondiale, essentiellement un protectorat français qu'on appelait l'Indochine, et qui donc au lendemain de la deuxième guerre mondiale a été occupée par les Japonais. Et lorsque les Japonais ont quitté l'Asie, ces populations se sont révoltées, n'ont pas voulu donc retourner sous protectorat français, et notamment le communisme qui pénétrait aussi dans ces régions-là, notamment par l'intermédiaire de la Chine, de Mao Tse-tung, a trouvé un leader en la personne d'un indo-chinois qui s'appelait Ho Chi Minh, et qui a levé l'étendard de la révolte contre les Français, bien qu'il était lui-même, il avait été éduqué et a fait ses études à Paris. Et donc, ça a été entre 1947-48 et 1954, une période extrêmement troublée, au cours de laquelle donc les Français ont essayé de rétablir leur autorité. L'occupation française de la péninsule indochinoise avait favorisé essentiellement la pénétration du catholicisme, dans ce sens que des missionnaires catholiques étaient venus évangéliser l'Indochine. Si bien qu'il y avait une implantation très importante du catholicisme en Indochine, avec évidemment aussi la présence, une forte présence bouddhiste, qui était une présence traditionnelle, confucianiste, et puis finalement toutes sortes de cultes qui étaient issus, n'est-ce pas, de ces différents cultes de l'Orient, de l'Extrême-Orient. La péninsule indochinoise était et est toujours une mosaïque religieuse extrêmement diverse, avec des sectes extrêmement folkloriques pour certaines d'entre elles. Il y en a même une qui reconnaît un apostolat particulier, Victor Hugo, pour citer. En 1954, c'est le drame de Dien Bien Phu. La France subit une défaite monumentale et doit traiter. Donc, 1954, accord de Genève, la France évacue l'Indochine, dans laquelle se crée un certain nombre d'États, issus justement de l'ancienne colonisation française, le Laos et le Cambodge, et puis le Vietnam. Le Vietnam, alors que les Américains, évidemment, ont poussé aussi à la décolonisation et à la défaite des Français, et espèrent prendre la relève. Et alors finalement, les accords de Genève prévoient une division du Vietnam en particulier en deux entités. Le Nord-Vietnam, capitale Hanoï, qui est donc le Tonkin traditionnel, qui alors lui est communiste. Et puis le Sud, capitale Saigon, qui en principe a un régime démocratique. Les accords de Genève prévoient que les deux États vont cheminer donc séparément pendant un certain nombre d'années, je ne sais plus combien, et au bout d'un certain nombre d'années, une réunification du pays est envisagée. Bon, cette réunification tarde, notamment du fait que deux facteurs interviennent. D'une part, la guerre froide qui fait que les positions se figent. Entre-temps, donc, a eu lieu la guerre de Corée. On se trouve dans une situation du même type, la Corée divisée entre une Corée du Nord communiste et une Corée du Sud occidentale, pro-occidentale, disons. Et les Américains espèrent que la même chose va pouvoir se produire donc en Vietnam du Sud et repoussent au calendrier grec l'unification prévue par les accords de Genève. Malheureusement pour les Américains, le Sud-Vietnam n'est pas la Corée du Sud. En Corée du Sud, on avait affaire à un peuple extrêmement discipliné et un peuple qui avait pris la mesure de la menace communiste et qui avait décidé d'y résister par tous les moyens. Le Sud, par contre, a toujours été le Sud du Vietnam par rapport au Nord tonkin, n'est-ce pas ? Qui a eu aussi, que le Nord tonkin a une population extrêmement disciplinée, du même type justement que la Corée. Ils ne sont finalement pas trop loin géographiquement. Mais le Sud a une population beaucoup plus laxiste, beaucoup plus nonchalante, et puis aussi un état d'anarchie endémique. Et cet état d'anarchie mine évidemment les institutions du pays, avec une corruption extraordinaire, tant et si bien que nous voyons rien venir. Ho Chi Minh, à la fin des années 60, au début des années 60, à partir des années 62-63, va entreprendre une guerre de libération du Sud-Vietnam, ce qu'il appelle une guerre de libération du Sud-Vietnam. Alors pour ce faire, il y a des infiltrations de partisans qui exécutent des raids, disons, terroristes, oui. Ces raids se propagent d'abord au Laos. C'est le Laos, petit pays qui est donc adossé aux frontières du Nord et du Sud-Vietnam. C'est le Laos qui est le premier à subir justement cette anarchie. Dans ce sens que dans ce pays qui est en principe une monarchie, profitant justement d'un désaccord à un moment de la succession du prince régnant, un des princes devient un prince rouge, ça veut dire qu'il devient communiste, et il s'empare d'une plaine extrêmement importante qui se trouve justement à la frontière des deux Vietnams, la plaine des Jars. Et là, donc, un maquis se crée, un maquis communiste qui prend le nom de Pathet Laos. Cette situation pourrit. Et bientôt, à partir de cette plaine des Jars, la zone démilitarisée qui sépare les deux Vietnams est contournée par la plaine des Jars, et les infiltrations de plus en plus nombreuses de ce qu'on appellera à partir de cette période-là les Vietcong pénètrent dans le Sud-Vietnam pour y faire sauter attaquer des casernes, faire sauter des routes, des ponts, enfin bref, semer la pagaille. Et puis non seulement ça, mais endoctriner aussi les Sud-Vietnamiens. Et non seulement il y a des infiltrés du Nord qui viennent donc ici faire de l'agitation au Sud-Vietnam, mais il y a également des citoyens du Sud-Vietnam qui prennent le parti de ceux du Nord. Ils ont d'autant moins de difficultés à trouver des oreilles attentives qu'effectivement, comme vous l'avez dit, le Vietnam du Sud, dans ces années 60, s'enfonce dans une corruption absolument inénarrable. Une famille a pris le pouvoir, les Diem et les Thieu, n'est-ce pas, qui se partagent la part du lion, n'est-ce pas. Il y a en particulier Madame Dien, qui est une personne qui est extrêmement, énergique, bien qu'étant une femme, qui est la véritable éminence grise du pays, et qui fait que, finalement, un coup d'État renverse cette famille qui régnait sur le Sud-Vietnam avec une poigne de fer. Bon, c'est le début d'une série de nouveaux troubles. Les bouddhistes aussi s'y mettent parce que les Thieu et les Diem étaient des catholiques. Donc c'est aussi pratiquement une guerre religieuse qui éclate. Des moines bouddhistes s'immolent par le feu sur la place publique pour frapper l'opinion mondiale, etc. Bon. Et finalement, la situation se dégrade à un point tel que les Américains sont obligés de réarmer à toute vitesse le Sud-Vietnam pour qu'il puisse faire face à l'invasion du Nord. En 1968, les Américains qui se sont amenés à s'impliquer de plus en plus dans cette situation-là voient leur navire attaqué par des vedettes nord-américaines, pardon, 1965, excusez-moi. Et donc, les Américains vont intervenir directement dans le conflit. On est en pleine guerre froide, il n'est pas question évidemment d'attaquer directement le Nord. Et le président Johnson, président américain à cette époque-là, décide d'envoyer des bombardiers au-dessus du Nord-Vietnam. Donc une guerre aérienne depuis les États, enfin les États-Unis du moins, les bases américaines qui sont dans les îles du Pacifique telles que Guam, telles que le Japon, Okinawa, voire même Hawaï, n'est-ce pas, bombardent sans répit le Nord-Vietnam, de plus en plus durement d'ailleurs. Ils sont accompagnés aussi par des bombardiers depuis des porte-avions qui sont ancrés au large du golfe du Tonkin. Et ce faisant, le Nord-Vietnam se sent libre, n'est-ce pas, de lancer une attaque de ses forces régulières, n'est-ce pas, contre le Sud-Vietnam. C'est ce qui va se passer notamment en 1968 au moment de ce qu'on appelle l'offensive du Tet, où les forces nord-vietnamiennes franchissent en force la ligne démilitarisée et tentent de s'emparer de la seconde capitale du Vietnam, la ville de Hue. Les Américains n'ont d'autre solution que d'envoyer des troupes, parce que les Sud-Vietnamiens, malgré le fait qu'ils sont équipés, entraînés et encadrés ensuite par des entre guillemets conseillers américains, comprenez des troupes qui sont envoyées là-bas finalement, eh bien se débandent face à l'offensive nord-vietnamienne. Et les Américains donc envoient des troupes directement US qui interviennent directement dans le conflit. Et en 68, donc au prix de lourdes pertes, l'offensive du Tet, qui est le nouvel an vietnamien, c'est pas traditionnel, est enrayée, la ville de Hue est sauvée. Les Nord-Vietnamiens sont rejetés au-delà de la zone démilitarisée, mais au prix évidemment de très lourdes pertes, la ville de Hue est en ruine en particulier. De ce fait, les Américains vont intervenir de plus en plus souvent dans le conflit, mais sans jamais oser franchir la frontière du Nord-Vietnam, si bien qu'il y a une espèce de sanctuarisation du Nord-Vietnam, de sorte qu'il n'y a pas de décision militaire possible, puisque en quelque sorte, là, quand ils sont pressés de trop près, les Nord-Vietnamiens peuvent toujours refluer dans leur sanctuaire et puis là se réorganiser, refaire leurs forces en vue de la prochaine offensive. D'autre part, ce qu'on appelle la piste Ho Chi Minh, justement, qui passe par la plaine des Arts, déjà, et donc le Laos pour aboutir dans le Sud-Vietnam, par le Cambodge aussi, le Cambodge qui s'enflamme dans ces années-là aussi, au début des années 70, le Cambodge à son tour, n'est-ce pas, connaît une révolution sanglante, et vous savez, cet horrible génocide qui va avoir lieu, donc, où 1 à 2 millions de citoyens vont être massacrés de sang-froid au nom d'une régénération robespierrienne par un gars qui est justement lui aussi un adepte de Robespierre, sinistre Pol Pot, qui est un pur produit du trotskisme français. Il a étudié en France, n'est-ce pas, et c'est auprès des gauchistes de 68 qu'il a pris ses idées. La situation est telle que finalement, les Américains se découragent. Les troupes américaines sont à la recherche d'un ennemi insaisissable, qui s'évanouit dans la brousse, qui s'évanouit et qui se réorganise. Et finalement, les troupes américaines sombrent dans la drogue, dans la délinquance, dans la prostitution, dans la corruption, dans la dolce vita, qui est qui marque le pays tout entier déjà depuis des années. Et finalement, en 1975, les Nord-Vietnamiens estiment que le temps est venu de lancer une dernière offensive dans toute la péninsule indochinoise. Et là, donc, les Américains, après avoir entamé d'ailleurs depuis déjà 1973 des négociations pour se retirer, ils ont retiré à petit leurs troupes, essayant de faire ce qu'on appelait une vietnamisation, remettre au nord, au sud vietnamien la lutte pour leur propre indépendance, pour leur propre pays, ce dont ils ne sont pas capables évidemment. Tant et si bien qu'en 1975, c'est l'effondrement total du régime du Vietnam du Sud, et donc il y a réunification du Vietnam du Sud sous l'égide donc des communistes du Nord. C'est honteusement que les Américains fuient, les derniers Américains qui étaient au Vietnam fuient, n'est-ce pas, et le monde entier, n'est-ce pas, assiste à la première déroute de la l'hyperpuissance américaine, mise à mal par finalement un tout petit pays. Ça, c'est la grande honte, la grande humiliation de l'Amérique, n'est-ce pas, le syndrome vietnamien. Il faut dire que nous sommes dans les années 60s, comme on a dit, qui est l'équivalent, n'est-ce pas, de mai 68 a eu lieu aux États-Unis, et la guerre a été perdue sur les campus des universités américaines autant que dans les rizières du Vietnam, quoi. Dans ce sens que les communistes ont entrepris une guerre psychologique, et c'est là qu'est né un mouvement très intéressant qui s'appelle Peace Now, la paix maintenant, qui a inspiré donc les pacifistes israéliens qui ont transposé en Israël les gauchistes, n'est-ce pas, la même idéologie, n'est-ce pas, le Shalom Arshav, c'est la traduction hébraïque de Peace Now, paix maintenant, paix à tout prix, n'est-ce pas, paix au prix de l'abandon du Vietnam, etc. Donc paix aussi au prix de l'abandon des territoires, c'est la même idéologie. Ces années-là, donc, ont été des années extrêmement difficile, bien sûr, pour ces peuples d'Indochine. Et un certain nombre de missionnaires américains, d'organisations missionnaires américaines, ont compris que on allait vers des temps où, vraisemblablement, l'évangélisation de toute cette région-là ne serait plus possible. Et pendant les années où les Américains donc, ont été présents au Vietnam, notamment au travers de leurs armées, des gros efforts d'évangélisation ont eu lieu donc, dans toutes ces régions-là. Après la défaite américaine, enfin après la défaite de 1975, effectivement, le pays s'est fermé. Le Cambodge, au moment du génocide, a expulsé toute forme de présence chrétienne assimilée à quelque chose qui était occidental. Au Laos, ça a été à peu près la même chose. Seule la Thaïlande est restée ancrée donc, du côté occidental. Bon, les efforts de réévangélisation du Vietnam sont en cours. C'est un pays extrêmement dur, extrêmement fermé, pire que la Chine, n'est-ce pas ? Et on essaye de le faire, de pénétrer, les organisations missionnaires essayent de pénétrer dans ces pays sous couvert de l'humanitaire. Ces pays sont sortis de la guerre vainqueurs, mais ruinés économiquement, une économie absolument par terre, un niveau de vie absolument lamentable, si bien que quand des organisations caritatives se présentent pour aider le relèvement de ces pays-là, les autorités, qui se doutent bien qu'il y a anguille sous roche, finalement n'y regardent pas trop près, puis ferment les yeux sur un certain nombre d'activités annexes de ces différentes organisations. Mais il est évident que si ces organisations ne risquent, enfin le personnel des organisations chrétiennes qui travaillent là-bas, n'ont pas de grands risques à encourir, si ce n'est d'être expulsé s'ils s'affichent trop ouvertement, les chrétiens locaux risquent beaucoup plus. Et là, il y a beaucoup de martyrs qui sont en prison. Quand on étudiera justement, ce sera notre prochain chapitre, les martyrs chrétiens au XXe siècle, on aura l'occasion de reparler longuement justement de ces martyrs d'Indochine depuis la fin de la guerre du Vietnam jusqu'à nos jours. Bon, voilà, donc si vous voulez, avec ce point, nous terminons, on peut dire, l'histoire des missions chrétiennes au XXe siècle. Nous pouvons faire un bilan, essayer de faire un bilan. Le XXe siècle, en ce qui concerne les missions, a été une véritable révolution, pas toujours pour le mieux. Au XIXe, c'était l'époque où les communications étaient lentes, de telle sorte qu'un missionnaire sur le terrain avait pratiquement une liberté totale d'organiser son travail comme il l'entendait. Il était rare, qu'on vienne lui demander des comptes, il en donnait quand il retournait en congé, ce qui n'était pas toujours aussi fréquent que cela. Il y en avait qui restaient parfois 10 ans ou même davantage sans retourner au pays. Il était rare aussi que les organisations missionnaires, depuis leurs quartiers généraux, envoient voir un petit peu ce qui se passait sur le terrain, parce que les communications étaient souvent difficiles. Aujourd'hui, c'est très différent. Nous sommes à l'époque, enfin au XXe siècle, disons, nous sommes à l'époque des communications rapides. Et constamment, le missionnaire est coiffé par son comité. Et il se passe un petit peu ce qui se passe dans certaines armées où tout est très centralisé, où les décisions qui sont appliquées sur le terrain à des milliers de kilomètres de là sont prises par un petit comité directeur qui se trouve au quartier général aux États-Unis ou en Angleterre. Alors, c'est pas toujours pour le mieux. On a assisté au début du siècle à une grande augmentation du nombre des missionnaires. Mais ce qui a caractérisé le travail de nombreux missionnaires, pas de tous bien sûr, mais de nombreux missionnaires, notamment dans la deuxième partie du XXe siècle, et qui contraste avec ce qui avait lieu au siècle d'avant, c'est le XIXe siècle et au début du XXe siècle, c'est que le travail missionnaire va sombrer dans la routine. Ce qui va aussi être un handicap terrible au XXe siècle, à partir de la Première Guerre mondiale en particulier, c'est que les missionnaires ont peu de vision de l'Église indigène. Ils n'ont pas du tout comme but de créer une Église indigène. Au début du siècle, les missionnaires sont encore imprégnés d'une idéologie qui est une idéologie, comment pourrait-on dire, paternaliste, voire même, on peut dire, presque raciste, dans ce sens qu'il y a l'idée que l'indigène est un être, inférieur par rapport aux blancs, qu'il est intrinsèquement et, moins intelligent, moins évolué, qui ne pourra jamais atteindre le niveau des blancs au point de vue réflexion, au point de vue intelligence. Par conséquent, la mission s'établit dans le tiers-monde comme une institution qui est appelée à durer pratiquement ad vitam aeternam et garder constamment sous sa tutelle les indigènes. Ça, c'était la grande erreur des missionnaires. De ce fait, il y a aussi un autre point tout à fait intéressant, c'est que le missionnaire est considéré par les chrétiens occidentaux comme un ministre de second ordre, ce qui est d'ailleurs aberrant totalement, parce que souvent, beaucoup de ces missionnaires avaient de beaucoup plus grands ministères que les ministères qui étaient en Europe. Beaucoup de missionnaires ont fait une œuvre d'apôtre, de docteur, voire parfois même de prophète, n'est-ce pas ? Mais les églises d'Europe, ou d'Occident plus exactement, parce qu'il y a aussi l'Amérique, avaient tendance à considérer qu'un missionnaire, c'était quelqu'un qui était inférieur par rapport à un pasteur qui était au pays. Peut-être est-ce que parce qu'il dépendait d'eux aussi, peut-être au point de vue financier, c'était quelque chose qui pouvait jouer. Et ils n'étaient pas véritablement reconnus comme des ministres d'Église, en tout cas pendant la première partie du siècle. Les missionnaires aussi comprenaient mal, il y avait un gros problème pour les missionnaires protestants, c'était la vision de l'Église universelle. Et ils se sont élevés, souvent, contre le désir d'indépendance des peuples. Eux-mêmes n'ont pas ressenti ce désir. Souvent, ils vivaient un peu coupés des populations indigènes, ils avaient leur propre maison, etc. Ils se mêlaient peu, ce n'était pas toujours le cas, bien sûr, mais enfin, c'était souvent le cas. Et alors, justement, ce refus de l'indépendance politique, d'abord, et puis tout simplement ensuite de l'indépendance spirituelle, religieuse, des œuvres, de la création d'églises autonomes, d'églises nationales, a eu l'opposition des missionnaires jusque dans les années 60, jusqu'au moment où les peuples d'Afrique en particulier se sont émancipés. Alors il y avait en cela des raisons, je dirais, politiques, nationales, plus que théologiques. C'était parce que les missionnaires étaient conditionnés par, leur condition d'occidental. Et ça a considérablement nui à l'évangélisation et à l'impact du christianisme dans les pays du tiers-monde, où, pour beaucoup, comme l'ont vu par exemple au sud-est asiatique, le christianisme continue à être perçu comme une réalité étrangère, comme une réalité occidentale en particulier. Dans les années 60, on a fini par se rendre compte que finalement, la mission n'était pas quelque chose qui était destiné à être là pour toujours, mais que la mission traditionnelle avait fait son temps. Et à toute vitesse, on s'est mis à faire ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps, former des cadres indigènes. Former des pasteurs, des évangélistes, bon, ça, on avait déjà commencé, mais des gens qui étaient capables de prendre en main la direction des œuvres. Et Volens Nolens, plutôt souvent Nolens que Volens d'ailleurs, les missionnaires ont été obligés de passer les rênes du pouvoir aux mains des indigènes. Indigènes qui, de fait, n'étaient pas non plus toujours capables d'assumer cette direction parce qu'ils n'avaient pas été formés pour ça. Et beaucoup de problèmes de la mission, justement, sont nés de, soudain, cette décolonisation trop hâtive qui a eu dans le domaine spirituel le même cheminement que dans le domaine politique. Dans le domaine politique, c'est exactement ce qui s'est passé. Et beaucoup des troubles qui secouent l'Afrique actuellement viennent justement de ce qu'on a eu affaire à une décolonisation qui s'est faite trop vite, qui n'a pas été suffisamment planifiée à l'avance. Ça. Dans le domaine spirituel, dans le domaine des églises, c'est la même chose. Mais beaucoup de chrétiens indigènes ont fini par se rendre compte, au début donc ils ont voulu aussi se débarrasser à fond de la tutelle des Blancs. Puis quand même, au bout, ils ont fini par se rendre compte que ils ne pouvaient pas non plus passer des Blancs complètement. Et alors, un nouveau modus vivendi s'est créé entre les organisations missionnaires et puis les jeunes églises, comme on les appelait dans les années 60. Ça a été l'époque où beaucoup de ce qu'on appelait des jeunes églises entraient, par exemple, au Conseil œcuménique des églises. Et bientôt, ces jeunes églises ont été majoritaires au sein du CRE, du Conseil œcuménique des églises. Et donc, on prit aussi, d'une certaine manière, un certain pouvoir dans cette instance. Le problème, c'est que les églises d'Occident avaient le nerf de la guerre, l'argent, et bon, par ce moyen-là, ils ont réussi à garder leur pouvoir. Peut-être ce qui n'était pas d'ailleurs un mal, parce que les jeunes églises n'étaient pas toujours capables non plus d'avoir une vision comme les églises plus anciennes. Mais en tout cas, pour dire que c'est quelque chose qui n'a pas été sans poser de nombreux problèmes. Les missionnaires ont été trop lents pour entrer justement dans les perspectives nouvelles qui s'ouvraient dans la deuxième partie du siècle. Et finalement, on arrive maintenant à ce modus vivendi où les églises, les jeunes églises, les églises indigènes, comme on les appelle, ont besoin d'assistants de mission. Et s'il y a encore des missionnaires aujourd'hui, au début du XXIe siècle, c'est souvent beaucoup plus comme assistant de mission que comme missionnaire traditionnel tel qu'on les avait connus au XVIIIe, XIXe et dans la première moitié du XXe siècle. Bon, l'évolution de l'Église catholique dans ce domaine-là, de la mission catholique, a été un petit peu semblable, si j'ose dire, dans ce sens qu'entre 1915 et 1960, l'Église catholique s'est intéressée à la formation d'un clergé indigène. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut reconnaître. L'Église catholique a eu une vision prévisionnelle, si j'ose dire, plus claire que les protestants. Mais néanmoins, jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les Blancs étaient prépondérants sur les champs missionnaires catholiques. Et par exemple, à la mort de Pie XII, c'est-à-dire justement au début des années 60, il n'y avait que très peu de cardinaux du tiers-monde qui étaient nommés. Quand Pie XII est mort et que s'est rassemblé le fameux conclave qui devait élire son successeur, à savoir Jean XXIII, la majorité des cardinaux étaient des cardinaux d'Occident, disons, ou d'Amérique latine, bien sûr. Donc des Blancs, si vous voulez. Et alors, l'Église catholique s'est trouvée confrontée à une tension entre le local et l'universel. C'est une tension qui s'est concrétisée, manifestée particulièrement pendant le Concile Vatican II, qui a eu lieu justement dans les années 60, c'est-à-dire au moment où se prenait ce tournant. Et l'Église catholique conciliaire, a soudain pris conscience du fait qu'il y avait en quelque sorte une trop grande influence de l'Occident dans l'Église catholique, n'est-ce pas ? Et est né alors ce qu'on appelait le problème de l'inculturation. Un des problèmes justement de Vatican II a été de mettre fin à l'uniformisation qui marquait justement la culture catholique. C'est à Vatican II, par exemple, que l'on a mis fin à l'usage universel du latin. C'était quand même un peu aberrant, au fin fond de l'Afrique, qu'un prêtre noir dise la messe en latin, hein, au Bosnawa ou bien au Sénégal. Enfin, vous comprenez bien que là, c'était quand même quelque chose d'un peu étonnant, quoi, et habillé comme bon, le sont le clergé catholique. Bon, ben ça reste encore. Mais donc, le Concile Vatican II a remplacé l'usage du latin par les langues nationales. Ça a été vrai pour la France, mais ça a été vrai aussi pour le tiers-monde. Et c'était ce qu'on appelait l'inculturation. L'Église catholique admettait une certaine diversité des liturgies, et notamment justement des liturgies du tiers-monde. À la place de l'orgue, on s'est mis à célébrer des messes avec des tam-tams africains, avec des instruments traditionnels, à chanter des chants qui n'étaient plus donc le grégorien, mais des chants traditionnels africains qui avaient été donc adaptés pour la liturgie chrétienne, etc. Bon, comme c'est souvent le cas en pareille matière, souvent c'est allé trop loin. Et notamment dans le catholicisme, plus encore que dans le protestantisme, où on avait quand même une annonce de l'évangile beaucoup plus claire, de la Bible, une place beaucoup plus grande donnée à la Bible, dans l'Église catholique, il y a eu souvent, et il y a encore, un syncrétisme important où justement, par exemple, les esprits des ancêtres étaient assimilés avec les saints. Enfin, finalement, ce qui a toujours été la politique de l'Église catholique, une espèce de christianisation des coutumes locales, quoi, hein. Et alors, finalement, on ne faisait plus tellement la différence entre les cultes traditionnels, animistes, fétichistes et autres, n'est-ce pas ? Et puis, le christianisme avec ses saints, enfin, le catholicisme en tout cas avec ses saints, avec ses anges, avec ses démons, bref. Le culte traditionnel du vaudou se marie parfaitement en Haïti, par exemple, avec le christianisme, évidemment un christianisme tout à fait abattardi. Bon, on retrouve la même chose au Vietnam, par exemple avec les cultes locaux, les sectes locales, etc. Puis l'Afrique, évidemment. Alors, Jean-Paul II, par exemple, a essayé de mettre un peu d'ordre là-dedans et mettre certaines limites à cette inculturation, mais il est évident que c'est difficile de ramer à contre-courant quand on a laissé les choses aller beaucoup trop loin. Beaucoup de choses rappellent aux chrétiens, juste aux chrétiens locaux, enfin chrétiens, je mets entre guillemets chrétiens, leurs anciennes coutumes. Et bon, ils y restent très attachés. Et finalement, le clergé local, qui lui-même parfois n'est pas non plus totalement détaché de ces coutumes-là, bon, finalement, finit par s'accommoder de choses qui seraient quand même discutable même par rapport à la doctrine catholique traditionnelle. Un autre problème qui est né au XXe siècle sur les champs missionnaires, c'est le problème de l'unité. C'est les protestants qui ont les premiers été conscients de la façon chaotique dont ils présentaient l'évangile au monde. Et même s'il ne faut pas trop accentuer cet aspect des choses, on l'a fait parfois d'une manière excessive, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que l'hindouisme, par exemple, ou le bouddhisme, dans l'Extrême-Orient, sont aussi des religions qui sont très divisées, au moins aussi divisées que ne l'est le christianisme. Bon. Mais il est vrai que, si vous voulez, les problèmes de l'évangélisation du tiers-monde au XXe siècle ont été le facteur qui a entraîné justement la pression vers l'unité. Nous avons étudié cela quand nous avons parlé justement du mouvement œcuménique. Les premières tentatives d'uniformisation, enfin disons de rapprochement d'unité, ont été d'abord réalisées au niveau des traductions de la Bible. Différentes dénominations protestantes se sont unies pour traduire la Bible dans les dialectes locaux au milieu desquels ils travaillaient les uns les autres. Parce que le travail de la traduction de la Bible, évidemment, on s'est rendu compte que c'était un travail difficile, lent et surtout coûteux, et que les différentes missions ne pouvaient pas se payer le luxe d'avoir chacune leur propre équipe de traducteurs, et de produire donc chacune leur traduction de la Bible. D'ailleurs, ça n'aurait pas non plus été très bien compris par les populations locales de noter qu'il y avait des Bibles différentes. Donc c'est d'abord... Le travail de rapprochement s'est fait au niveau justement des traductions communes de la Bible. Et puis évidemment, ça a été d'abord 1911, on en a parlé longuement, quand on a parlé du mouvement œcuménique, où les églises du tiers-monde ont été représentées et ont interpellé les églises d'Occident en disant « Écoutez, mettez-vous un peu d'accord, quoi, parce que là, c'est plus possible, nous, on s'y retrouve plus ». Et ça a été, vous le savez, la naissance du mouvement œcuménique qui, au début, était essentiellement protestant, enfin uniquement protestant d'ailleurs, et avait pour but essentiellement une harmonisation du travail d'évangélisation sur les champs missionnaires. À partir de janvier 1948, vous savez, le mouvement œcuménique, alors là, s'est développé, et alors a créé aussi le COE, le Conseil œcuménique des Églises, a créé aussi des conférences régionales. Ça veut dire que, outre les conférences mondiales qui avaient lieu tous les 3-4 ans, avaient lieu tous les ans, dans une même région du monde, des conférences régionales qui avaient pour but, évidemment, d'examiner les problèmes qui étaient spécifiques à cette région et qui pouvaient se poser entre deux conférences internationales. C'est ainsi qu'il nous faut faire une mention particulière pour le Conseil des Églises du Moyen-Orient, qui est une de ces conférences régionales, donc issue du Conseil communautaire des Églises, et qui aujourd'hui, comme nous le savons, est un cheval de Troie de l'islamisme pour pénétrer le Conseil communautaire des Églises et les Églises d'Occident pour les faire virer à l'antisionisme, à l'antisémitisme, ce à quoi elles sont bien attelées et avec le succès que l'on sait. Donc, si vous voulez... sur le champ missionnaire, le besoin d'unité s'est fait sentir plus durement qu'ailleurs. Et ce besoin d'unité s'est renforcé aussi par le fait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les églises se sont aussi senties menacées par de puissantes forces antichrétiennes, et notamment par le marxisme, la sécularisation, etc. Et finalement, les églises se sont dit que face à ces menaces qui leur étaient communes, l'athéisme, tout ça, le matérialisme, elles avaient besoin de faire un front uni, un front commun contre ces ennemis communs. Que ces divisions étaient aussi souvent source de ces faiblesses. Et alors, donc, a commencé donc, le travail œcuménique que nous avons vu et qui est une marque aussi spécifique du XXe siècle. Jamais dans l'histoire de l'Église, depuis les origines et depuis les différentes divisions qui avaient marqué le christianisme depuis les origines, car c'est pratiquement depuis les origines, c'est-à-dire essentiellement depuis le IIe, IIIe siècle, que le christianisme est divisé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il ne faut pas attendre la réforme pour que ça se voit. Ça, c'est quelquefois aussi l'erreur qu'on fait, l'image d'Épinal, n'est-ce pas ? En quelque sorte, les protestants seraient les grands diviseurs de la couture, de la tunique sans couture du Christ. La tunique sans couture du Christ, elle était déjà divisée depuis longtemps. Bon. Mais donc, c'est un phénomène unique, effectivement, au XXe siècle, que ce mouvement de rapprochement des églises, qui d'ailleurs, à la fin du siècle, il faut bien reconnaître, bat aussi pas mal de l'aile. À partir de 1947, les jeunes églises rejettent le mot « mission ». Comme quelque chose d'agressif et comme quelque chose d'occidental. Le mot mission aujourd'hui n'est plus un mot qui a une connotation positive. C'est un mot qui est souvent associé avec l'idée de colonialisme, d'oppression, etc. Et c'est un mot que même les jeunes églises demandent que l'on n'emploie plus. C'est par exemple le vœu qu'elles formuleront en 1961 à l'Assemblée de New Delhi, qui sera justement consacrée à l'accueil beaucoup de ces nouvelles églises. Bon, donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut dire pour ici, ce siècle des missions. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ? Là, nous terminons justement la mission. pour dire simplement que le XXe siècle est quand même un temps où quelque chose de nouveau apparaît. C'est que grâce à l'effort missionnaire qui a marqué le XIXe et le XXe siècle, pour la première fois dans son histoire, le christianisme est devenu une religion universelle, ou catholique si vous préférez. Jusqu'alors, le christianisme avait été limité au monde occidental, c'est-à-dire Europe et Amérique du Nord et du Sud. À partir du XXe siècle, on peut dire que la Grande Commission, l'ordre de Jésus à la fin de l'Évangile de Matthieu, « Allez dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, faites du sein de toutes les nations des disciples. » On peut dire que cet ordre de Jésus a véritablement été mené à bien. Et que toute la terre habitée, c'est le sens du mot « oikoumene » en grec, n'est-ce pas ? Toute la terre habitée a véritablement entendu parler de l'Évangile. Et ça, c'est évidemment aussi un des grands signes, parce que Jésus avait dit que son retour ne pourrait avoir lieu que lorsque, justement, cette bonne nouvelle aurait été prêchée au monde entier pour que cela leur serve de témoignage, après quoi, dit Jésus, viendra la fin. Et nous allons voir la prochaine fois, ou une des prochaines fois en tout cas, qu'on peut maintenant se demander si effectivement nous ne sommes pas aussi à la fin de l'histoire de l'Église, tout simplement parce que bien, le Seigneur revient. Voilà, on peut terminer ce chapitre sur les missions. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?